Canalem, on aime l'été. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canalem, évidemment. L'été, je suis en compagnie de...
Emmanuel Robitaille. Aujourd'hui, en ce mardi 21 août, je vous parle de bonnes nouvelles, je vous parle de nouvelles tout court concernant la périnatalité, donc avant, pendant et après un accouchement. On parle de femmes, finalement, et de bébés. Et qu'est-ce qu'il faut dire à un autiste et donc à ne pas dire, surtout? Gros plan sur le livre « L'autisme, expliqué aux non-autistes ».
Et puis, le champ des possibles, de quoi s'agit-il? Le champ des possibles, c'est un terrain vague en pleine ville qui a été colonisé par des végétaux de toutes sortes, si bien qu'un lieu en friche est devenu le champ des possibles. Et nous aurons un invité pour venir nous en parler également. François de Beaulieu sera là aujourd'hui pour, avec un invité, le docteur Bakri, qu'on va joindre par téléphone en France. Il sera question de la e-santé.
Maxime Despomerleau nous amène encore partout au Québec pour être certain qu'on ne s'ennuie pas. Et Hélène Gauthier du SQLA nous donne encore le goût de se plonger dans de bonnes lectures.
Entre deux saisons, un sourire à la con.
Aime l'été, c'était Rose et puis Juin.
Qui nous amène tout droit vers ton premier sujet, Emmanuel, une chronique grossesse?
Oui, parce qu'il faut dire que cette chanson-là, elle a été écrite sur 9 mois.
Absolument,
c'est ce que tu m'apprenais, en fait.
Voilà. Et puis juin, ce qu'on a fait de mieux, finalement, c'est ce qui va sortir de moi. Voilà.
Ben voilà. Et oui, on a un spécial périnatalité aujourd'hui. Ouais. Je parle d'avant, de pendant et d'après l'accouchement, bien sûr, faire sur les femmes et le processus de donner la vie. Vous allez voir qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles qui y sont rattachées, parfois bonnes et parfois un peu... loufoque, ludique,
okay,
divertissante, comme
d'accord.
d'habitude, parce qu'on aime ça avoir du fun. Premièrement, il y a des ovaires qui sont conçus en laboratoire et qui pourraient aider des femmes à concevoir après un traitement de chimiothérapie.
Oh!
Les scientifiques ont créé un ovaire à partir des tissus humains et d'ovules qui pourraient traiter l'infertilité, qui est un effet secondaire qui est bien connu suite à un traitement de chimiothérapie et qui pourrait donc aider les femmes à concevoir de nouveau. En fait, on a pris un ovaire qui a été donné à la science et on l'a dépourvu de toutes ses cellules. Il en est resté une espèce de pellicule faite de collagène et de protéines, considérant qu'il n'y avait plus grand-chose, et on en a alors retiré les follicules. De qu'est-ce qu'un follicule?
Oui, c'est ça.
J'entends ta question. Les follicules, en fait, c'est les petits sacs qui contiennent les ovules dans leur stade les plus précoces. C'est un embryon d'ovule, on va le dire de même. Et on a réimplanté tout ça ensemble pour créer un ovaire artificiel complet et on l'a mis dans le corps d'une souris. Et ça a fonctionné. En fait, ça a supporté le développement et la croissance des ovules contenus dans les follicules qui, on se rappelle, n'étaient qu'à un stade embryonnaire à ce moment-là.
Bien sûr.
Et actuellement, avec l'aide des vaisseaux sanguins qui approvisionnent le nouvel organe artificiel, le corps des follicules ont pu subsister pendant au moins 3 semaines, ce qui est quand même pour le moment. Donc, on aspire à le mettre, bien sûr, dans le corps d'une femme d'ici quelques années. Et on parle d'aider, d'une part, les femmes qui vivent de l'infertilité suite à une chimiothérapie, mais tellement d'autres conditions potentielles également. On parle même des symptômes de la préménopause qui pourraient être enrayés sans avoir à prendre d'hormones grâce à cette intervention-là.
Oui.
Et ce que je voulais ajouter, et qui est très intéressant, c'est que on a dit qu'on enlevait toutes les cellules de cette de ce faux organe-là, finalement, c'est très important parce qu'actuellement, ou avant cette sortie-là, ce nouveau traitement-là, on faisait quelque chose qui était similaire, mais l'ovaire ou l'organe gardait ses cellules, ce qui apportait un danger que s'il y avait des cellules
cancéreuses,
des métastases, on pouvait réimplanter
le cancer
à la suite de tout ça, ce qu'on ne veut absolument pas nécessairement. Donc, voilà où on en est maintenant pour ça. Et d'ailleurs, inversement, dirais-je même, par contre, c'est intéressant de souligner que les études rapportent que la grossesse et l'allaitement diminuent le risque de cancer du sein, cette fois-là.
Okay.
Littéralement, les risques de cancer du sein diminuent en fonction du nombre d'enfants nés. Le développement du cancer du sein, c'est relié à une exposition à des hormones qui sont endogènes, donc endogènes qui sont sécrétées par nous à l'intérieur de nous, soit l'estrogène et la progestérone. Donc, qui sont produits, par les ovaires qui sont impliqués dans le cycle menstruel. La logique est assez simple. Si on suit bien, quand on est enceinte, on diminue le nombre de cycles menstruels auxquels on est exposé au courant d'une vie. Et donc, diminution de l'exposition à ces hormones endogènes-là qui sont reliées au risque de cancer du sein. Et bingo, plus on a d'enfants...
J'aime l'expression.
Bingo, plus on a d'enfants, moins les chances, en tout cas. C'est au moins un facteur de risque qui est... soustrait.
Idem pour les cancers ovariens, par exemple, les cancers...
Les cancers ovariens et endométrial également.
Ah oui,
endométrie,
aussi.
Oui, et l'allaitement joue également un rôle directement sur les cellules mammaires aussi, en les faisant se différencier ou en les faisant maturer pour qu'elles produisent la lactation. Et les cellules différenciées sont moins à même, elles, de se transformer en cellules cancéreuses, ce qui fait qu'on diminue encore une fois les risques de cancer du sein, ce qui est une très bonne nouvelle parce que c'est un cancer très malin.
Je veux une autre bonne nouvelle, s'il vous plaît, maintenant, Emmanuel.
Excellente nouvelle. En juin dernier, on annonçait que le taux de survie des mères qui accouchent est à son plus haut. Actuellement, la mortalité des mamans dans divers ou différents pays dans le monde, c'est un risque, c'est un fait qu'on ne parle pas beaucoup en Amérique du Nord parce que ce n'est pas une réalité qui nous touche énormément, mais c'est une réalité dans le monde qui est absolument... c'est terrible, en fait. Et le pays le plus touché actuellement par cette bonne nouvelle-là, c'est l'Inde. Il a vu son taux de mortalité des femmes donnant naissance diminuer de 77 %. Depuis les années 90, il y a une partie de cette réussite-là qui revient à l'organisme Save the Women, qui a déployé des femmes pour éduquer sur la santé reproductrice, disons-le comme ça, donc comment se tenir en santé quand on est en... quand on garde un enfant à l'intérieur de nous et qu'on on se reproduit, considérant que les faibles diètes et un haut taux d'anémie étaient des facteurs de risque importants dans ce phénomène-là. L'alphabétisation et l'empowerment des femmes sont également des facteurs sociaux clés dans cette nouvelle statistique-là qui, ma foi, donne espoir, on va se le dire. Et depuis la mise sur pied de Save the Women, c'est aussi 60 % moins de décès infantiles et d'enfants morts-nés que l'on compte. C'est énorme.
Vous voudriez aussi, je pense, nous parler d'une autre personne qui sauve aussi des mères.
Lia Kebede, qui sauve des mères, elle aussi. Précédemment ambassadrice de l'OMS. Elle a fondé en 2005 la LEMLEM, L-E-M, toute d'un bout. Bon, la LEMLEM Foundation pour aider les mères d'Afrique à avoir un plus grand succès aux soins maternels. C'est la région au-dessus du Sahara. C'est la place la moins sécuritaire au monde pour les femmes qui donnent naissance. Il y a 50 % d'entre elles seulement qui ont accès aux soins appropriés lors de la grossesse et pendant l'accouchement, ce qui est absolument pas convenable.
Non, c'est ça.
Une femme sur deux.
Non, c'est...
Et c'est environ 2500 mères qui sont aidées maintenant annuellement grâce à cette femme-là. Et parallèlement, ce qui est super intéressant, c'est que la LEMLEM Foundation assure l'employabilité de centaines de personnes en Éthiopie et au Kenya en offrant des produits artisanaux, équitables, bien sûr, et des produits de coton. C'est au motif bohémien magnifique. Moi, c'est vraiment mon style. Si vous voulez aller voir, allez sur le www.lemlem.com. Vous allez voir leurs magnifiques produits, vous allez pouvoir les aider tout en vous procurant de magnifiques vêtements.
Dites donc, j'ai vu passer à un moment donné une nouvelle insolite. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, vous, cet enfant qui est né deux fois?
J'ai pas lu, alors honnêtement, j'en sais pas plus.
Tu l'as vu passer aussi.
Oui, oui,
moi, je l'ai pas laissé partir comme ça. Je l'ai attrapé au vol et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est au Royaume-Uni que le petit Jackson a bel et bien vécu deux naissances. En fait, ce qui est arrivé, c'est que sa mère s'est vue annoncer que Jackson avait le spina bifida, donc une malformation de la moelle épinière. Et c'était à son échographie de 19 semaines qu'elle a appris ça. Et c'est là que son médecin lui a proposé une chirurgie qui serait la meilleure chance d'aider son fils finalement, et qui n'était pas son fils qui n'était pas encore né, mais cette idée-là sous-tendait une procédure très rare, peu commune et assez inattendue, soit faire naître Jackson, l'opérer et le réintégrer dans l'utérus de sa maman.
Voyons donc.
Oui, oui. Pour que celle-ci termine sa grossesse et le mette à terme pour l'amener à sa naissance, ben, à sa deuxième naissance,
finalement. Donc, il a été opéré avant de naître.
Cette opération-là a été effectuée que quelques centaines de fois dans le monde, il faut dire, et seulement une personne sur cinq s'y qualifie. Donc, il y a une personne sur cinq à qui l'on propose ça, qui, après évaluation, peuvent le recevoir. Et c'est en octobre 2017, à la fin du deuxième trimestre de grossesse, que la maman de Jackson a procédé. Elle était éligible, elle était prête à prendre le risque. Ouais. Et maintenant, Jackson est né deux fois. Sa mère confirme qu'il a également deux gâteaux de fête et il célébrera sa naissance deux fois par année pour toute sa vie.
Merci, Emmanuel.
Tu es en leur une illusion d'optique, juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon? J'ai un avion à la maison, à réaction. Bas les pattes, fais demi-tour, joli tambour. Je porte un casque anti-amour sur les oreilles, descends de ta licorne rose. Tu vas te casser quelque chose. Moi. À midi, reviens me voir. À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis. Pas ce soir. J'ai appris tout seul sur le tard et sur le tas à résister à la torture, à la morsure, à laisser siffler les pétards. À protéger sous une armure mon petit cœur pur. Bel avenir si d'aventure typique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'andouille, de toute façon tu repartirais en citrouille et en chaussons.
Albin de la Simone, à midi, on m'a dit.
Oui, je me demandais, je me disais la voix, je connais cette voix, je connais cette voix. Puis,
c'était vraiment joli, je ne connaissais pas.
Albin
là.
De la Simone, ah oui, ça c'est un de ceux qui... nouveaux auteurs, compositeurs, ben nouveau, ça fait au moins une dizaine d'années maintenant, 10-12 ans maintenant qu'on le connaît en France. Il fait partie de cette génération, Jeanne Chéral. Ça vous petite dent, ça vous dit rien du tout. Oh là là, faut vraiment que je fasse son éducation.
Vraiment, vraiment. Et on a eu cette conversation-là en plus le mois passé, c'est vraiment vrai.
Il y a un papier sur lequel je suis tombée récemment dans la presse plus et que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai eu envie de vous le partager aujourd'hui. Ça a été envoyé. C'est un blog qui est rédigé par une jeune fille qui s'appelle Valérie Jessica. Et qui, ce n'est pas dit, mais je suis convaincue qu'elle est Asperger, bien sûr. Et elle a un blog qui s'appelle royaumeasperger.com. Et j'ai trouvé intéressant ce blog, pourquoi ? Elle y dit, et là je la cite, hein, je lis textuellement, « Je dédie ces 10 phrases à tout enfant autiste, à ton ami, ta collègue, ton amoureux ou ta voisine autiste, car oui, il s'agit bien de 10 phrases. » Les 10 phrases à dire à un ou à une autiste. Ces 10 phrases, dit Valérie Jessica, sont pour tous les autistes envers qui on a manqué de bienveillance, mais aussi pour ceux qu'on aime et à qui on voudrait faire plus de bien encore. Ce sont des phrases cadeaux, ce sont des phrases qui font du bien. Et comme on est à M l'été et qu'on aime faire du bien, je me suis dit, je saute là-dessus et je partage ça dans le cadre de l'émission. La première phrase, « Sers-toi de tes forces ».
C'est un mémo de jour de vie, hein, ça.
Tu vas voir, Manu, que finalement, on va se dire qu'à chacune des phrases, c'est des choses qu'on devrait se dire à nous-mêmes les jours. Sauf que là, il est essentiel de penser autisme. Parce que je vais revenir à la fin de ma chronique sur un livre qui s'appelle « L'autisme expliqué aux non-autistes ». Et c'est un livre essentiel, écrit par Brigitte Harrison, qui est elle-même autiste, et Lise Saint-Charles. Et je suis sûre qu'elles ont dû capoter littéralement en lisant toutes ces phrases-là, parce que c'est tellement la bonne affaire. Tout le monde pareil, c'est ennuyant. Dire à un autiste, tu sais, tout le monde pareil, là, ce serait carrément chiant, finalement, c'est ça. Donc, dire à un autiste, garde.
Ta différence, la différence apporte
voilà,
de la couleur dans la vie.
Exactement.
C'est ça.
Exactement, Manu. Et il y a aussi cette phrase très courte, 3 mots.
Ah oui.
Je te crois.
Et tu vois, j'ai ressenti moi-même un soulagement en la lisant cette phrase.
Oui,
j'ai
d'ailleurs,
la phrase devant moi.
T'as vu,
j'ai fait un...
Oui, on a entendu le grand soupir.
C'est extrêmement important.
Oui.
De se faire valider dans son expérience.
Absolument.
Pas besoin de te... Je te crois. Ça
te
dérange, je te crois. Ça, tu ressens ça comme ça, je te crois. Merci, bonsoir.
Ah oui, c'est ça.
quand on sait à quel point le sensoriel est différent chez les personnes autistes.
Pas de justification.
Regarde, je te crois. Exactement, c'est superbe. Autre chose, est-ce que tu veux un peu de temps? C'est la quatrième phrase qu'elle recommande qu'on dise à un ou à une autiste. Tu vois, par exemple, quand la personne s'offre a l'air un petit peu paniquée, parce que l'imprévu chez les personnes autistes les fait s'agiter beaucoup. Hein, c'est parce que tout d'un coup, la reconnaissance n'est pas là. Ce sont des choses qui leur disent rien. Et là, tout d'un coup, c'est un petit peu panique. OK, on respire. Est-ce que tu veux un peu de temps? Très important comme phrase. Cinquième phrase. Est-ce que je peux te poser une question personnelle? Autrement dit, prendre le temps de lui demander « Est-ce que je peux te poser une question personnelle ?» plutôt que de la poser tout de suite. Tu comprends? Quand je ne comprendrai pas, au lieu de juger ou d'y aller au hasard pour en tirer les conclusions, je vais, si tu le veux bien, te demander de m'expliquer. Donc, est-ce que je peux te poser une question personnelle?
Et j'aimerais dire que ça devrait être d'emblée pour tout le monde, ça s'appelle de la politesse et du respect de l'intimité. Et pour avoir, moi, un handicap physique, je te dis que vraiment, là, qu'est-ce que tu as eu sur le bord d'une rue par un inconnu ou des questions sur ma vie sexuelle par des inconnus qui posent des questions. Faudrait prendre, et moi-même aussi, même s'il n'y a pas d'handicap ou de différence physique, juste de respecter les gens en faisant une petite entrée de jeu comme ça, là, ce serait à noter.
Absolument. Non, mais
dans le livre des relations interpersonnelles.
J'ajouterais que pour les autistes,
c'est
encore, non pas pire, parce qu'il n'y a pas pire ou meilleur, je m'exprime mal, mais on sait qu'encore une fois, le sensoriel est complètement chamboulé. Toi, le sensoriel ne l'est pas. Quand il y a quelqu'un qui a l'indélicatesse de te demander comment tu fais pour faire l'amour, par exemple...
Moi, j'ai de la répartie.
T'as de la répartie, alors que eux...
Moi, j'ai une pas pire répartie.
Eux, c'est de la panique, tu comprends? C'est comme, mais voyons donc.
En tout cas, c'est quelque chose à mettre à tout le monde.
Exactement. Hein? De lui dire aussi souvent, ce n'est pas grave. Et ça, moi, je m'entends dire souvent à mes collaborateurs, à mes collègues, s'il y a un problème en nom de n'importe quoi, ce n'est pas grave. Il n'y aura pas mort d'homme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention une prochaine fois, mais ce n'est pas grave. Personne ne va mourir à cause de l'erreur sociale que toi, autiste, tu viens de faire. Tu ne voulais pas faire mal. Ce n'est pas grave. Il y a aussi, est-ce que tu aimerais que j'aille avec toi? Tu sais, par exemple, quand c'est une première pour un autiste, ben, ne jamais hésiter, mais encore là, ne pas s'imposer par sa présence, mais
d'offrir
demander,
l'accompagnement.
Voilà, offrir l'accompagnement. Aussi, je suis prêt à répondre à tes questions, n'hésite pas. Ça me ferait plaisir que tu te sentes assez à l'aise de me poser des questions, sans craindre ma réaction qui va te faire peur, parce que la réaction du non-autiste fait souvent peur à l'autiste. Alors, il aime mieux...
Est-ce que c'est expliqué comment ça peut nous faire peur?
Si tu veux, à chaque fois, il y a comme un petit paragraphe. Tu vois, si jamais je ne peux pas, par exemple, ou ne veux pas te répondre, je ne me fâcherai pas. Je vais seulement te le mentionner et peut-être t'expliquer pourquoi, si j'en suis capable. Avec moi, tu peux retirer ce stress constant. Pour répondre à votre question, tout est dans le livre dont je vais parler dans exactement 2 minutes. Numéro 9. Tu peux me dire ce que tu penses. Même si ça n'a pas de bon sens. Dis-le-moi, partage-le-moi. Je vais t'entendre, je vais t'écouter. Et la 10e, c'est tu as ta place parmi nous. Évidemment, on t'aime. Hein, ça aussi, on devrait tous et toutes se le faire dire. Elle dit en conclusion à ce papier, je ne suis pas parfaite et moi non plus, je n'arrive pas toujours à me servir correctement de ces phrases, même si je le veux très fort. Je ne demande pas à qui que ce soit de devenir le maître des énoncés parfaits, mais ces phrases, elles peuvent t'aider. Alors, cadeau. Lorsque vous aurez l'occasion de les utiliser, ça va faire du bien à quelqu'un. J'ai autre chose à vous proposer, peut-être pour vous faire du bien, dans le cadre de mon émission « Des livres pleins les oreilles », d'ailleurs qui revient à bientôt.
Ce sera le
6 septembre, la première. J'avais reçu Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. Brigitte Harrison est une autiste. Lise Saint-Charles est une spécialiste de la communication envers les personnes autistes et elles étaient venues toutes les deux. Je me rappelle, j'avais d'ailleurs demandé à la personne autiste « Comment vous sentez-vous ? » Je voudrais être en mesure que vous vous sentiez bien. Et je lui avais demandé avant « Qu'est-ce que je ne devrais pas vous dire ? » qu'est-ce que je ne devrais pas faire gestuellement. Et elle avait tellement apprécié, elle avait dit, si vous saviez le nombre de personnes qui s'en foutent complètement, on arrive sur un plateau et qui nous... Elle dit, c'est sûr que tout nous fait peur. Alors là, je lui avais fait visiter le studio avant qu'elle puisse rentrer et tout. Et ces deux femmes-là ont écrit « L'autisme expliqué aux non-autistes. Des pistes inédites à partir des neurosciences, des résultats cliniques et de l'expérience d'une personne autiste et surtout vis-à-vis des personnes non-autistes. » Et tantôt, vous me posiez une question. Regardez, je pourrais vous me disiez, oui, mais est-ce qu'il y a une explication?
Tenez, qu'est-ce qui fait peur? Parce qu'on ne sait pas, tu sais.
Tiens, ça, là, c'est Brigitte. C'est un témoignage de Brigitte qui est celle qui est autiste. J'ai vraiment pris une page au hasard. Brigitte se souvient. J'ai vécu certaines expériences inquiétantes parce que je peinais à repérer la douleur. Un jour que j'étais au bureau, j'ai eu mal au ventre pendant environ une heure sur l'heure du midi. Après, tout est redevenu normal et j'ai terminé ma journée de travail. J'ai roulé une heure pour rentrer chez moi. Lorsque j'ai voulu manger en soirée, la douleur est revenue. Un ami m'a conseillé d'aller consulter. Le lendemain matin, j'ai été opérée d'urgence. Au réveil, il me manquait l'appendice, un ovaire et l'utérus. Autrement dit, oui, il y avait douleur, mais elle ne s'était absolument pas rendue compte de la gravité de la chose. Tu sais, quand on dit que le sensoriel, c'est incroyable. Elle était en train de s'empoisonner de l'intérieur, explique-t-elle. J'étais en train. Et les chirurgiens ont dû tout nettoyer. Je n'avais vu aucun signe de tout cela, excepté un mal de ventre qui a duré de 30 à 60 minutes et dont la puissance ne m'avait pas fait paniquer.
Et on sait qu'une crise d'appendice, là, c'est terminé.
C'est tellement douloureux.
J'en ai pas vécu moi-même, mais on en a entendu. Oui, on a tous quelqu'un dans notre entourage. Alors, qui a plus d'appendice.
C'est fou. Alors,
et donc là, tu peux pas te fier sur toi-même pour évaluer.
Non, exactement. Et là, moi, je vous recommande avec ce livre-là, l'autisme expliqué aux non-autistes, c'est que ces deux femmes-là nous font tellement comprendre ce qui se passe dans l'esprit de la personne autiste. Et là, tout d'un coup, on comprend le rapport à la douleur, le rapport au froid, à la chaleur, le rapport au coiffeur. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à aller se faire couper les cheveux. Ils ne comprennent pas que les cheveux poussent. Ils ne comprennent pas qu'on leur coupe les cheveux. Remarquez, moi non plus. Enfin bon, ça c'est autre chose. Alors voilà, l'autisme expliqué aux non-autistes de Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. La version audio existe via le SQLA, donc en version gratuite, évidemment, si vous désirez vous procurer ce livre. Restez avec nous. C'est Clotilde Seuil en votre compagnie à Aime l'été avec
Emmanuel Robitaille.
À tout de suite.
Vous écoutez Aime l'été.
On était parti en grande discussion sur que finalement, il y a des choses que... On a tous quelque part quelques traits autistiques. Mais oui, c'est ça. Mais enfin bon, à des degrés différents. Je pense aux personnes là, qui sont profondément atteintes et aux parents.
Il y a un niveau fonctionnel.
Et voilà, c'est
pas,
ça. Exactement. Effectivement. Mais t'as raison, Manu. Il y a des gens qui agissent et vous savez qu'on aime bien en parler à cette émission. Aime l'été. Alors, on va rencontrer d'ici quelques secondes Clément Badra, qui est membre du conseil d'administration des Amis du Champ des Possibles. Qu'est-ce que c'est que le Champ des Possibles? On en parle dans quelques secondes, mais avant aussi... Non, juste après, pardon. On va parler de quoi? Je suis un petit peu perdue, mais je vais me retrouver. Ah oui, ce sera la chronique de François de Beaulieu, la chronique « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde » avec le docteur Bacri, qui est président du comité national de la e-santé en France. Qu'est-ce que la e-santé? Restez des nôtres. On va tout savoir grâce à François de Beaulieu.
Coming.
À M l'été, c'était la formation Awa, Habib Galdi.
Il y a un vieil adage qui dit que quand on veut, on peut. Alors, quand on veut faire d'un champ en friche un champ de tous les possibles, eh bien, quand on peut, on veut. Non, quand on veut, on peut.
Et on l'a fait.
Et on l'a fait. Et la preuve en est avec Clément Badra qui est avec nous. Bonjour Clément.
Bonjour à vous.
Clément, vous faites partie du conseil d'administration de ce concept, le champ des possibles. Alors, à quoi ça ressemble d'abord pour situer un petit peu les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que le champ des possibles et où ça se situe?
Comme vous l'avez dit, c'est un concept et en même temps un espace physique. Donc en fait, le champ des possibles, il se situe dans le Mile End, le long d'une voie ferrée qui passe proche de la rue Gaspé et Calvin. Et en fait, c'est un espace qui à la base était une friche urbaine et qui maintenant est un parc ouvert à tous et où on peut se balader et voir la nature un petit peu s'épanouir plus librement que dans les autres parcs qu'on retrouve à Montréal.
Vous avez planté des choses ou vous avez laissé ça? Vous avez laissé la nature faire?
On a laissé la nature faire.
Avec des chemins au milieu?
C'est ça. Il y a des petits sentiers où les gens peuvent se promener. Il y a des zones où l'herbe est un peu moins haute, où les gens peuvent s'asseoir et se pavaner comme dans n'importe quel parc.
Mm-hmm.
Simplement, les plantes, les arbres, les fleurs qu'on retrouve, c'est des fleurs qui sont venues ici naturellement et qui se sont implantées. Et beaucoup sont des espèces indigènes, donc des espèces locales à la région de Montréal et du sud du Québec.
Comme par exemple
On a de l'asclépiade, il y a des prairies mellifères pour les pollinisateurs, puisque naturellement, c'est des plantes qui reviennent se planter facilement.
Uh-huh.
Donc on a pas mal d'espèces de plantes et d'animaux qui sont de la région.
Alors Clément, je précise pour les gens qui nous écoutent, mais qui ne nous voient pas, vous vivez en fauteuil roulant,
mm-hmm.
Et donc c'est un champ des possibles qui est absolument possible de visiter, de traverser quand on est en fauteuil roulant comme vous.
Absolument, ouais. C'est, moi-même, j'y passe du temps. C'est un champ qui est accessible. Il faut passer sur un petit peu de gravier, mais c'est à peu près le seul petit challenge pour passer. Mais
Pourquoi est-ce qu'on irait au champ des possibles? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est un lieu magique, Clément?
Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un lieu qui nous coupe un petit peu de ce qu'on peut vivre à l'extérieur. Quand on est dans les parcs à Montréal, on est très bien, c'est agréable.
Mm-hmm.
Mais on se retrouve dans un milieu quand même qui est relativement contrôlé par l'homme. Donc le gazon est tondu assez court, il y a des sentiers en béton. Là, on est vraiment dans un milieu où on a laissé la place à la nature et on le voit. Il y a plus de petits insectes qui volent, on peut observer certains animaux. Si on a de la chance, on peut même observer nos couples de faucons cresserelles.
Ah, oui?
Donc on a vraiment des espèces qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça, vous et votre équipe?
Personnellement, à la base, c'est que j'ai développé un goût pour la nature quand j'étais petit.
Oui.
Et donc, pouvoir avoir un milieu comme ça, en milieu urbain, parce que moi, j'ai eu la chance de sortir de la ville pour aller dans la nature, c'est pas toujours le cas de tout le monde. Mmh. Et avoir un espace qui est accessible à tous, à proximité et dans la ville, et on peut retrouver un petit peu cette ambiance de prairie de campagne. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être bien pour tous.
Alors ça s'est fait comment? C'est un endroit, j'imagine que vous habitez pas loin, et vous étiez plusieurs à vous dire, regarde-moi, c'est quand même fantastique ce terrain-là. Est-ce qu'on se dit quoi? On se dit, avant que la ville fasse quelque chose, faisons-nous une action, posons-nous une action citoyenne?
C'était un peu le mouvement qui s'est mis en route. Mm-hmm. En fait, moi, je n'étais pas à l'origine du mouvement, puisqu'à l'époque, j'étais pas engagé dans ce milieu-là.
Mm-hmm.
Mais c'est au départ un biologiste qui déjà était intéressé par ce site-là, et une artiste qui était sensible au fait qu'il y ait un espace vert au milieu de ce territoire bétonné, qui était intéressée par ce site. Et il y a des citoyens qui ont appris que la ville avait la volonté de faire une cour à camions, en fait, là-bas.
Ah.
Donc il y a eu un mouvement, une mobilisation citoyenne avec la communauté citoyenne du Mile End. Et il y a eu des concertations, des discussions entre les citoyens. Et il y a un projet qui a été amené à la ville de ce qui est ressorti de ces consultations et qui a montré la volonté, en fait, de la communauté autour de ce lieu, de préserver ce site.
Et la ville a été relativement, ouverte à ce... où ça a été un petit peu difficile, il a fallu pleurer, faire des dossiers, des machins, hein, tout ça.
Soumission 1, soumission numéro 2.
C'est ça.
Il y a eu quelques projets qui ont dû être... Enfin, il y a eu un gros travail de fond qui a dû être fait. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est tombé pendant les périodes d'élections municipales. Et le projet qui soutenait à 100% ce projet-là, qui était, enfin l'équipe qui soutenait ce projet-là, qui était Projet Montréal, a été élue dans l'arrondissement du Plateau, et donc ils ont permis de nous apporter un soutien pour mettre en place ce projet.
Emmanuel.
Ben, je vérifiais simplement qu'aujourd'hui, parce que là, il est bien installé, ce projet-là, combien il y a de personnes par jour qui vont, comment il est utilisé actuellement? Es-tu populaire? Pas-tu?
Ben, il est quand même fréquenté beaucoup. On compte pas le nombre de personnes qui passent, parce qu'on surveille pas spécialement l'utilisation. On part sur un principe que c'est un milieu qui est libre et ouvert.
Oui, bien sûr.
Mais,
on n'a pas prouvé sa popularité pour qu'il reste ouvert.
Non, on a cette chance-là aussi. Et on a quand même beaucoup de personnes qui passent. Je pourrais pas vous donner un chiffre, mais...
Mais il est utilisé. Les gens, ils vont pour se ressourcer. Est-ce qu'ils vont étudier? Est-ce qu'on voit une tendance?
Il y a vraiment tous les types de démographie. Il y a des parents avec leurs enfants, il y a des étudiants, il y a des personnes âgées qui habitent dans le quartier.
Ça veut dire qu'il est aménagé un peu. Il y a des tables ou il y a...
Il n'y a pas de mobilier actuellement. Il y a un conteneur qui nous permet de stocker du matériel pour s'occuper un petit peu du site, pour l'entretenir de temps en temps. Mais on n'a pas de mobilier urbain actuellement.
C'est vraiment la nature. Ouais. C'est ça qu'on va aller chercher.
Il y a des projets d'aménagement dans le futur, mais respectueux de la dynamique biologique
du site.
C'est
quoi qui nous attend, justement?
Mais ça peut être quelques sites pour s'asseoir. Par exemple, les sentiers, faire des promenades surélevées en bois pour permettre de ne pas être en contact avec le sol directement, comme ça se fait dans les cantons de l'Est, dans les balades.
Oui.
C'est ce type d'aménagement-là qui pourrait être envisagé.
Au Marais aux Cerises, hein, notamment à Harford, c'est ça, c'est comme
exactement.
Ça, c'est ça, exactement.
Peut-être même un site, un observatoire pour pouvoir se poser
pour
en hauteur.
Pour les oiseaux, oui, aussi. J'ai entendu, c'est quoi l'ancienne gare de triage ferroviaire? C'était à cet endroit-là?
Oui, c'était à cet endroit-là.
Ça veut dire qu'il faut décontaminer dans ces cas-là, non?
Au début du siècle.
Oui.
Il y a une forme de contamination, mais comme c'est souvent le cas à Montréal, c'est une forme de contamination assez faible. Et surtout qui est plus en profondeur. Donc il y a un travail effectivement avec la ville et le ministère de l'Environnement pour travailler sur ce sujet-là. On essaye de pousser vers la phytoremédiation et les bioremédiations. Mais donc c'est un sujet qui est complexe, donc on est en travail avec une équipe.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres champs des possibles? Question numéro un pour finir. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres?
Nous, c'est ce qu'on souhaite, on l'espère. C'est un mouvement qui n'est pas spécifique justement à ce lieu-là, c'est un concept qu'on veut développer, faire des partenariats avec d'autres organismes aussi, ça existe un petit peu...
Les champs des possibles, c'est
ça. Les champs des possibles,
c'est ça.
Exactement.
On y rentre par j'imagine qu'il y a une entrée et une sortie, donc il doit y avoir deux entrées possibles pour aller au champ des possibles.
Moi je dirais qu'il y a une entrée, à l'intersection proche de Casse-Grain et Gaspé.
D'accord.
Et puis il y en a une de l'autre côté du parc qui sort sur Gaspé un peu plus bas.
Sur Gaspé un peu plus bas. Est-ce qu'on peut participer?
Ouais, c'est même recommandé en fait. C'est le but de l'organisme des Amis du Champ des Possibles, c'est d'engager la communauté citoyenne autour de ce projet-là.
À faire quoi?
Il y a différents événements. Par exemple, là le 25 août, on fait ce qu'on appelle un bio-blitz. Donc c'est tout le monde est...
Un bio-blitz.
Tout le monde est invité en fait à venir sur le champ et puis on donne une petite formation pour aider à faire un inventaire des espèces qu'on peut retrouver dans le champ. Donc les plantes, les insectes, les animaux. Le 27 août, il y a un atelier de dessin botanique qu'on a mis en place avec une artiste locale pour apprendre à peindre un petit peu les différentes espèces qu'on retrouve. Et puis il y a des événements régulièrement qu'on essaye de mettre en place.
Et pour finir, est-ce qu'il y a un site internet, quelque chose, et si les gens veulent aller s'informer un peu plus?
Il y a une page Facebook, Amis du Champ des Possibles.
Alors, les amis.
Les Amis du Champ des Possibles.
Les Amis du Champ des Possibles, il y a une page Facebook. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez traverser ce champ des possibles, ou peut-être y passer quelques temps à écouter bourdonner toute la vie autour de vous. Clément Badrin, c'est bien ça, j'espère ne pas écorcher votre nom. C'est vraiment très gentil de vous être déplacé pour nous parler de ce champ des possibles, et bravo à votre équipe et à vous, et j'espère que ça va faire des petits, cette affaire-là.
Merci.
Au revoir.
Mamie. te souviens-tu des jours bénis, des jours amis, nous étions heureux. Les baobabs veillaient sur les savanes et les babanes berçaient nos nuits. Te souviens-tu du bruit des fusils dans la plaine, les rivières couraient dans la mer et la misère couvait sous terre. C'était l'âge d'or.
Aime l'été, vous entendiez Chicha Libre, l'âge d'or.
Il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire dans le monde et je suis heureuse de tenir pour ami celui qui veut bien nous le rappeler à chaque semaine, notamment sur sa page Facebook. François de Beaulieu, bonjour.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Et de nous partager les bonnes nouvelles, parce qu'on n'en entend jamais assez.
Non, c'est ça.
Alors, comptez sur moi, je serai toujours au rendez-vous.
C'est noté.
Il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire dans le monde, parce qu'il y a toujours des gens qui sont extraordinaires et qui se démarquent. Aujourd'hui, vous allez nous parler, François, de e-santé. Donc, i avec un e, hein, comme dans i.
Absolument.
e-santé. Alors, bien sûr, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que la e-santé, mais je ne vais pas aller trop vite. Je vous laisse le soin de nous présenter ce qu'est la e-santé et surtout, quel est l'interlocuteur qui nous entend déjà et qu'on va saluer très bientôt.
Dans quelques instants, effectivement, nous avons un interlocuteur de choix pour nous parler de la e-santé. Et ce que j'aimerais, c'est peut-être simplement mettre tout en perspective. Nous savons tous qu'au siècle dernier, au XXe siècle, effectivement, la médecine a fait de grands progrès. Et la chirurgie, sans doute plus encore. Ce que nous savons, c'est que dans nos pays avancés, ici même au Canada, au Québec, en France, où est présentement notre, notre invité, et dans tellement d'autres pays, le système de santé, qu'on serait tenté plutôt d'appeler un système de soins, est confronté à des enjeux budgétaires importants qui parfois peuvent même remettre en cause la politique de santé ouverte à tous dans certains pays. Alors la e-santé, eh bien effectivement, c'est quoi ? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec le docteur Adnan El-Bakri. Il est en France, disais-je, il est basé à Reims, qui est une charmante ville dans l'est de la France. Mmh. Il est président du Conseil national de la e-santé. Et c'est à ce titre-là, évidemment, que nous l'avons invité et nous poursuivrons avec lui un peu plus tard sur un sujet qui va aussi tous nous concerner. Mais tout d'abord, saluons le docteur El-Bakri. Adnan El-Bakri, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien, François. Merci beaucoup.
Excellent. Bonjour à vous, docteur Bakri. Merci d'avoir accepté l'invitation de François pour l'émission Aime l'été ici à Montréal. Merci beaucoup.
Merci, je suis ravi aussi. Merci Clotilde et enchanté.
alors, Adnan El-Bakri, effectivement, la première question qui s'impose, c'est qu'est-ce que c'est que la e-santé et fondamentalement en quoi et comment ça va changer la vie de vous, de moi, de celles et ceux qui sont autour de moi aujourd'hui ici, les patients.
Alors, la e-santé, c'est l'utilisation de toutes les nouvelles technologies numériques au service de la santé publique, mais aussi de la santé également des hommes et des femmes, donc la santé des citoyens. Donc c'est l'utilisation de tout ce qui est digital. Et dans la e-santé, on met aujourd'hui beaucoup de technologies, en tout cas beaucoup de termes. Vous avez sûrement entendu parler, par exemple, de réalité virtuelle. Vous avez sûrement entendu parler d'impression 3D. Vous avez entendu parler des applications de smartphones sur les applications téléphoniques. Voilà, c'est l'utilisation de tout ce qui existe aujourd'hui comme nouvelle technologie, notamment digitale, au service de la santé pour améliorer le parcours de soins d'un citoyen, hein, je dis bien citoyen, qu'il soit malade ou pas, au niveau du monde. Voilà, ça c'est la définition globale. Et dans la e-santé, donc on met beaucoup de choses actuellement. Il y a pas mal de définitions, mais l'OMS, en tout cas l'Organisation mondiale de la santé, définit la e-santé de cette façon.
Excellent. Excellent. Si nous allons un peu plus loin, au-delà de la simple définition, aujourd'hui, la réalité de la e-santé pour un patient, ça se traduirait par quoi, docteur El-Bakri ?
Alors, la réalité, je vais vous parler de cas concrets. Hein, pour vous donner un exemple de comment on peut utiliser évidemment le digital au service des patients. Aujourd'hui, on est en 2018 et nous n'avons toujours pas de partage de l'information efficace. C'est-à-dire quand vous allez dans un hôpital en France, prenons l'exemple que je connais très bien, mais c'est pareil dans beaucoup d'autres pays, quand vous allez dans un hôpital, quand vous allez voir un médecin généraliste, quand vous allez chez le dentiste, quand vous allez dans une pharmacie, en général vous repartez de ces établissements sans aucune information en votre possession. Les informations restent dans l'établissement là où vous les avez consultées. Donc le pharmacien a ses informations, le dentiste a ses informations, le médecin généraliste a ses informations, et chacun donc a des informations qui sont différentes, mais pourtant ça concerne la même personne, qui est vous en fait, le patient. Et ça c'est réellement problématique, et on a commencé à se rendre compte de ce problème il y a une vingtaine d'années maintenant, quand on a commencé à parler de big data. Et on s'est rendu compte que la recherche médicale et la recherche scientifique, elle est basée évidemment sur les preuves, et les preuves proviennent de statistiques. Et si je vous donne un exemple pour schématiser, si par exemple moi je vous prescris aujourd'hui du paracétamol pour la douleur, c'est parce qu'il y a des statistiques, il y a des études qui ont prouvé que sur 2000 patients par exemple, ou 5000 patients, ou 10000 patients, en tout cas, j'ai une étude qui m'a montré que dans 80% des cas, le paracétamol soulage la douleur. Eh bien, imaginez que nous, on fait ça aujourd'hui pour toutes les pathologies, pour tous les médicaments. Mais ce sont en général des études assez restreintes, avec un nombre de patients assez restreint. Si on avait 1 million de données, peut-être que ces statistiques-là ne seraient pas les mêmes. Et donc les preuves que nous avons aujourd'hui pourraient changer. Et c'est là où on s'est rendu compte de l'importance de créer des bases de données collaboratives et de partager l'information. Et donc aujourd'hui, le digital, la e-santé, permet d'apporter des technologies qui, en fait, aboutissent à un partage efficace de cette information, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui.
Mmh.
Et c'est ce que nous faisons, nous, par exemple, pour faire le lien avec ce que je fais, moi, aussi, au sein de mon entreprise, par exemple.
Et ce que j'aimerais, c'est justement, comme le temps passe toujours trop vite quand on est en bonne compagnie, ce que j'aimerais maintenant, Adnan El Bakri, c'est que vous nous parliez de l'initiative que vous avez prise avec cette entreprise, Innov Santé, que vous avez créée il y a 2 ans, et donc, surtout, avec le PASCARE. Le PASCARE qui est, comme vous l'avez baptisé, le premier passeport international de santé numérique. Alors, nous sommes ici dans les studios d'une radio qui a pour mission de s'adresser, entre autres, évidemment, à une population qui est confrontée ou à une mobilité plus réduite ou à des situations de handicap. J'aimerais que vous nous disiez, pour cette population-là en particulier, qu'est-ce que le PASCARE peut changer concrètement dans leur vie?
Alors, donc, comme vous le dites, François, le PASCARE, c'est un pass santé international, c'est une sorte de passeport numérique pour accéder, en tout cas pour récupérer d'abord, parce qu'on ne les récupère pas, donc pour permettre la récupération, l'accès et le partage des informations de santé par le citoyen, par le patient lui-même, partout dans le monde, sans limite. Et donc, c'est ce qu'on a lancé il y a 3 ans maintenant. Et on a 2 cibles principales, si vous voulez. On a premièrement les malades chroniques. Les malades chroniques parce que moi, j'ai eu un cas concret, encore une fois, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée à la base, d'une patiente qui était atteinte d'un cancer, elle était suivie chez nous à Reims, et puis elle devait aller faire sa chimiothérapie à Montpellier. Et vous imaginez, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 ans, elle faisait les allers-retours et elle trimballait avec elle ses dossiers médicaux, ses examens, et on échangeait avec Montpellier par fax, par la poste, etc. Donc ce n'est absolument pas efficace. Et cette carte a permis à Leslie, par exemple, donc la patiente en question, de dématérialiser complètement son parcours et d'avoir cette facilité de partage de l'information, et c'est elle qui contrôle son parcours. Ça, c'est un premier exemple. Et puis, la deuxième cible qui est évidemment très importante pour nous, ce sont les personnes à mobilité réduite, les personnes ayant un handicap quelconque. Pourquoi ? Parce que ces personnes, quand elles vont consulter, elles se déplacent plusieurs fois parfois parce qu'il manque toujours un certificat médical ou autre chose.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible de nos jours. Donc, alors que le digital le permet, et nous, on le permet donc avec cette carte où on facilite ce parcours qui est dématérialisé. Donc, on leur permet d'avoir une qualité de vie qui est, pour eux, qui est précieuse.
Docteur Bakri, tout ça est immensément passionnant, et effectivement, ça risque de faire avancer la cause, et pas seulement des Français, on parle bien à l'international avec ce PASCARE. Care comme faire attention, A-C-A-R-E. On comprend qu'à ce moment-là, l'anglais soit utilisé. François, on va dire au revoir à notre ami.
Absolument, j'aimerais le remercier, vous remercier pour votre accueil à nouveau aujourd'hui. Le sujet était vaste. À très bientôt.
Merci beaucoup, docteur Bakri, et bravo pour ce PASCARE. J'imagine que si on fait PASCARE sur le net, on trouve.
Ah oui, vous allez trouver beaucoup d'informations.
Merci, au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Vous écoutez toujours Aime l'été, 13h, ou toujours Emmanuel Robitaille avec vous et Clotilde Seille. Pour la prochaine demi-heure, on sera pas seul par contre. Maxime Despomerleau vient nous rejoindre et elle nous fait toujours sortir. On va parler poutine, entre autres, ce qui est pas mauvais. Et on va également parler avec Hélène Gauthier du SQLA qui va nous permettre de lire pour nous reposer peut-être un petit peu avant la rentrée.
Mais j'ai pas la clé, j'ai le blues d'être tout seul en prison. J'attends enfin le jour où je pourrai partir, mais si on m'ouvre la porte, moi je m'en vais déguerpir. J'ai le blues d'être tout seul.
chaud, j'essaie de voir le ciel, mais le plancher est frais, pis rentre pas de soleil. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Je pense à mes amis qui font tout plein de conneries, mais ont jamais rien fait pour me sortir d'ici. J'ai le blues d'être tout seul en prison. J'en peux plus de la vie. Je me suis cassé une corde avec les drones, mon lit. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Et même si Dieu lui-même il veut me faire la peau, pas sur mon petit nuage, y'en aura pas de barreau. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison.
Le blues d'être tout seul en prison par les chercheurs d'or.
Non seulement on ne veut pas être en prison, mais on ne veut pas être seul. Et pour ça, Maxime va s'occuper de nous faire sortir. Maxime, salut!
Bonjour, comment ça va?
Ça va
bien.
Toi?
Super, ben, on va commencer maintenant.
Ben oui, let's go!
On attend avec impatience. Et on est quand même bonnes, on est disciplinées. On te laisse parler, vas-y.
Absolument. Alors, c'est dans ces moments-là, les filles, où j'aimerais avoir une voiture et pouvoir sortir de Montréal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en région et où je vous amène aujourd'hui, à commencer par la Biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières. Alors, jusqu'au 7 septembre, c'est la 8e édition de la Biennale qui a lieu dans différents lieux à Trois-Rivières, mais également en Mauricie. Ils ont sorti aussi des murs de leur galerie et de leur musée pour s'étendre dans la région. Il y a même une petite incursion à Montréal. Cette année, le thème, c'est l'art et les sciences. Alors, les commissaires ont décidé d'approcher la thématique par le low-tech et le high-tech, en sachant que plusieurs artistes utilisent des procédés technologiques dans les œuvres finies ou dans leur démarche artistique. Alors, ils font des liens entre art et sciences de cette manière. On expose des œuvres d'artistes du Québec, d'autres provinces canadiennes et des États-Unis. Et on a regroupé les expositions et événements majeurs dans un trajectoire des sens, art et sciences, et qui présente des œuvres aux propriétés multisensorielles. Donc, on a des installations sonores, odorantes ou tactiles. Et donc, je vous en décris quelques-unes. On a, par exemple, le duo Béchard-Hudon, La chute des potentiels. Ce sont des cannes à pêche avec des petits moteurs vibratoires comme ceux qu'on trouve dans nos cellulaires et qui entrent en contact avec des récipients de verre. Donc, ça crée des sons. Ils sont toujours un peu différents parce que le micro ne va pas aller toucher toujours la même partie de ces récipients-là. C'est au Centre Pauline-Julien. Il y a une installation sonore Asservissement de Jean-Pierre Gauthier. C'est un orchestre à cordes entièrement programmable, des archets robotisés qui frottent sur des fils métalliques amplifiés à l'aide de microphones. C'est à la Galerie d'art du Parc. Et finalement, Annie Thibault, qui travaille avec les cultures fongiques, le plancton et les bactéries comme matériaux artistiques. Ah, elle présente carrément une chambre où poussent des champignons dans les salles d'exposition de l'atelier Silex, toujours à Trois-Rivières. Alors, on voit vraiment que c'est des matériaux qui sont utilisés de manière très, très différente, mais toujours dans le but de créer une expérience chez le spectateur, chez les visiteurs de ces lieux-là. Donc, comme je le disais, ça a lieu dans plusieurs endroits à Trois-Rivières et ailleurs aussi. Par exemple, ce samedi, à Saint-Élie-Caxton. Oh. Donc, on aura l'événement satellite « Trajectoire territoire », trajectoire au singulier, territoire au pluriel, où on peut voir la roulotte Vrille Mobile, qui abrite une œuvre qui s'appelle « L'insurrection végétale » de l'artiste Giorgia Volpe. À l'intérieur de la roulotte, il y a un écosystème qui s'est développé avec l'accumulation d'échantillons végétaux et identitaires qui proviennent du sol et des rencontres survenues dans le territoire parcouru. Parce que la biennale a lieu depuis le mois de juin et se poursuit jusqu'au 7 septembre. Donc, c'est une installation,
ça pousse,
si on veut, in situ, mais renfermée. Et donc, on a demandé à d'autres artistes de travailler autour de cette roulotte-là. Mm. Et ça a lieu ce samedi à Saint-Élie-Caxton. Elle s'est promenée dans différentes villes. Et ce samedi, on invite d'ailleurs les familles à venir fabriquer des objets sonores, dans le but de s'inspirer des œuvres qui sont présentées durant la biennale. C'est vraiment ouvert à tous, c'est gratuit, sauf indication contraire. Toutes les entrées des musées et des galeries et des activités spéciales sont gratuites. Et il se passe plein de choses. Victoriaville aussi, il y a une création in situ de José Luis Torres, « Se croire à l'abri », qui a capté mon attention. On peut l'avoir au centre-ville de Victoriaville pour encore une semaine. Son travail se caractérise par des installations monumentales extérieures, souvent faite à partir de matériaux recyclés. Et cette œuvre-ci fait référence à notre obsession de la sécurité dans nos sociétés actuelles. Alors, l'œuvre, je vous la décris, elle met en scène une cage quadrillée noire, cadenassée, un peu comme celle qu'on utilise pour remiser des matières dangereuses. Et s'y trouve enfermé au centre un baril noir, duquel s'échappent, on dirait, des bidons d'essence géants de couleur blanche. Alors, la sculpture fait plusieurs mètres de haut. Et c'est cette idée que derrière ce grillage, nous sommes protégés. Alors, c'est vraiment dans le but de créer une discussion autour de différents enjeux sociaux. Et en terminant, à Trois-Rivières, cet automne, on continue de rendre hommage à l'un des artistes invités de la biennale, M. Pierre Landry, qui est originaire de Trois-Rivières et qui est décédé il y a quelques semaines avant la biennale. Et donc, cet automne, il y a une exposition sur ses 50 ans de création à la Galerie du Parc.
Et on rappelle que tout ça, c'est jusqu'au 7 septembre. Maintenant, Sarah Séné, c'est un nom à retenir.
Oui, vraiment. Alors, Sarah Séné, c'est une artiste visuelle que les auditeurs de Canal M connaissent peut-être déjà. Elle est venue à M la vie en novembre 2017 parler d'un projet photographique qu'elle réalisait avec des adolescents vivant avec une déficience visuelle. Et lors de sa visite, elle en était au début du projet. Maintenant, moi, je vous invite à venir voir son exposition qui va se tenir à la fin du mois d'août dans le cadre de l'événement Soir 2018, Hochelaga Maisonneuve. C'est pour une soirée, le 31 août. Alors, le concept de soir, c'est de décloisonner les disciplines, démocratiser l'offre culturelle et offrir une vitrine d'expérimentation aux artistes. Et donc, le temps d'une nuit, soir, habille l'intérieur d'une quinzaine de boutiques ou de commerces de la rue Ontario, entre Darling et Pineuf. Donc, c'est vraiment là que ça se passe pour une soirée. Elle sera exposée au Atomic Café, donc un lab expo, un vernissage dès 16h. Et je veux que vous parliez quelques mots de son projet Fovea. Fovea, qui est la zone de netteté dans l'œil. Alors, c'est une série de portraits analogiques et une installation sonore qui met en lumière plusieurs adolescents et jeunes adultes malvoyants et aveugles. Et elle a choisi de travailler sur cette tranche d'âge pour se questionner sur la projection dans l'avenir. Ah. Et la partie visuelle, ce sont des photos. Il y a une description en gros caractères et en braille. Et la partie sonore de l'installation se décline en 9 courts documentaires sonores avec les participants. Sur son SoundCloud, d'ailleurs, on peut déjà en écouter 2 qui sont en ligne. Alors, c'est vraiment l'idée de rendre l'exposition accessible à tous et également d'aller dans un côté beaucoup plus poétique. Elle travaille la photographie argentique, souvent en noir et blanc ou le Polaroid. Alors, elle présente des portraits de mise en scène à la frontière de la photographie artistique et du documentaire. C'est une personne vraiment à découvrir. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle est admissible à la Bourse TELUS, coup de cœur, art visuel et art vivant. On peut voter tous les jours sur le site de Soir. Et ça lui permettrait de remporter une bourse de 500 $ pour son travail et donc de pouvoir travailler davantage à rendre ses œuvres accessibles et est-ce que ça puisse tourner un peu partout à Montréal et au Québec.
Et on peut voter jusqu'à quand? Ce concours-là est ouvert jusqu'à quand, oui?
Oui, on peut voter jusqu'au 1er septembre. Les gagnants vont être annoncés le 2 septembre. Donc ça, c'est pour la partie Hochelaga-Maisonneuve. Le festival a déjà fait d'autres apparitions dans Rosemont-Petite-Patrie et c'est terminé. Mais donc, on peut voter tous les jours jusqu'au 1er septembre.
Merci beaucoup, Maxime!
Un grand plaisir!
À la prochaine!
Oui, à bientôt! Bonne semaine!
Pas encore qu'il le lui dira devant des écrans de rêve, nos vies se déforment, des milliards d'images, un piège dans un beau décor, tout ça ne faut. Car quand les héros s'en mêlent, c'est un peu gênant. Nos visages veulent tout refléter, ce qu'il y a de grand. Dans un monde où tout est montré, tant qu'il y en aura, tout sonne fort.
aime l'été, plus qu'il n'en faut, par Alexandre Desilets.
Merci beaucoup. Et vous savez que depuis le début de la saison, on aime bien inviter des chroniqueurs qui viennent nous parler de livres audio, parce que c'est vrai que l'émission des livres pleins les oreilles était présentée en reprise cet été, mais il n'y a pas eu de nouvelles émissions. J'ai pris un petit break, en fait. Mais je peux déjà vous dire que je suis remontée au fourneau et j'ai déjà deux ou trois émissions de prêtes. Et à ces émissions-là, Hélène Gauthier, qui est notre dernière invitée pour aujourd'hui. Salut Hélène.
Bonjour.
Eh bien, vous avez accepté très gentiment, Hélène, de continuer cette participation, de venir nous voir pour nous parler de ces livres audio gratuits,
oui,
accessibles via le SQLA.
Absolument, parce que c'est un tel plaisir. Donc, aujourd'hui, je vous en présente quelques-uns qui sont tous disponibles à nos abonnés. Donc, le premier, c'est Monte Perdido de Agustín Martínez. Je pratique mon espagnol. Donc, Monte Perdido, qui veut dire en espagnol, en français, qui veut dire le mont perdu. C'est un thriller qui a été effroyablement populaire en Espagne.
Ah oui?
Et le premier roman de cet auteur. Donc, Monte Perdido, c'est un petit village de montagne dans les Pyrénées. Qui est très difficile d'accès, particulièrement en hiver. Donc, il y a deux fillettes qui disparaissent, deux fillettes de 11 ans. 5 ans plus tard, on en retrouve une. Et donc là, on fait venir des policiers, la police nationale de Madrid. Donc, les gens qu'on ne veut pas trop dans le village, qu'on ne connaît pas, ouais, les gens de l'extérieur, les gens de la ville.
Quand vous dites qu'on la retrouve, on la retrouve
vivante? On la retrouve vivante, mais oui.
C'était comme tellement ça. Ma question, j'attends,
oui.
Vraiment.
C'est ça, okay. dans le roman, il y a un accident de voiture, on trouve une voiture dans un ravin, il y a un homme décédé dans la voiture, mais il y a une jeune fille de 16 ans qui est vivante et on se rend compte que c'est une des fillettes qui avait disparu.
Oh là là là.
Donc, on tente de résoudre le mystère. La jeune femme traumatisée refuse de parler. Est-ce qu'elle refuse de parler parce que c'est un très petit village et la personne responsable fait partie des villageois? Donc, c'est très tendu. C'est un huis clos, mais un huis clos en nature. C'est la nature qui crée le huis clos, ce qui est très intéressant. Donc, c'est un premier roman qui est très réussi.
Bon, Monte Perdido, Agustín Martínez.
Exactement, parfait.
C'est tellement exotique, bon, quand t'en parles.
Le deuxième, on va un peu plus terre à terre. Ah. Nous sommes bien seuls, le seul qui est écrit au féminin, de Julie Bosman.
Si oui? Je peux me permettre.
Oui.
Parce que je ne l'ai pas encore lu.
Oui.
Et s'il fait partie des quelques-uns de...
De votre pile.
De ma pile, qui penche de plus en plus, on dirait la tour
de Pise. On a tous une pile.
Et ce qui est bien dans ce titre-là, c'est que le seul est à la ligne. Autrement dit, il peut se lire de deux façons différentes. Genre, nous sommes bien seuls.
C'était tellement ma question.
On est bien toutes seules.
Ou alors, bien seules, genre beaucoup voilà. Seules.
On voilà. Est vraiment seules.
C'est ça.
C'était un de mes points.
Ah, c'est ça.
Mais oui, oh, le titre, choix, je vous ai coupé l'herbe sous le pied.
Parce que c'est cette...
maudite animatrice.
Mais vraiment pas. C'est vraiment ce titre qui ouvre la porte à cette réalité qui est toujours, qui peut être positive, qui peut être négative,
voilà.
D'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, à un moment ou à un autre de sa vie. Donc, Julie Bosman est une journaliste au départ. Donc, elle a interviewé plusieurs femmes qui vivent seules depuis longtemps, qui sont âgées de 32 à 85 ans. Donc, vraiment, toutes les générations. Et de ces interviews, elle a créé 15 nouvelles. Donc, c'est une fiction. Elle a inventé des nouvelles, mais elle s'est basée sur ses interviews.
Des faits réels.
Donc, c'est quelque chose de très court, 96 pages, 2 heures, ça se lit, ça s'écoute, ça se lit très rapidement. Donc, certaines femmes sont seules par choix. Il y en a qui n'ont pas rencontré le bon, il y en a qui ont été abandonnées par leur conjoint. Il y a toutes sortes de situations. Et comme vous l'avez mentionné, on est vraiment seul ou on est... Non, on est bien seul.
On est bien seul, hein?
Voilà. C'est quelque chose qu'on a choisi dans notre vie. Il y a des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, mais qui se sont tellement données à leur relation, à leur enfant, qu'elles n'existent plus par elles-mêmes. Donc, elles sont seules aussi de cette façon. Donc, toutes ces petites nuances qu'on retrouve dans la solitude féminine, qu'on voit moins souvent, qui est moins étudiée, qui est moins présentée que la solitude masculine, surtout avec l'âge. Donc, très intéressant. Nous sommes bien seuls de Julie Bosman.
L'écriture intéressante?
Oui, oui, absolument. Oui, oui vraiment, pour un premier essai de fiction, c'est intéressant. Un autre très beau petit livre, cette fois, c'est de la non-fiction, c'est du documentaire, là, en anglicisme, pardon. Les pieds dans la mousse de caribou, la tête dans le cosmos.
Un documentaire, c'est un anglicisme.
Ben oui, je crois.
Documentaire? Mais
pour un livre, pas pour un film.
Ah, OK, d'accord. Non, non, parce que remarquez, ça aurait été possible. Hein. Je n'ai pas la science infuse dans le... Voilà.
Je crois. Donc, le titre, le titre est si poétique et si chantant. Les pieds dans la mousse de caribou, la tête dans le cosmos. J'adore. De Jean-Yves Soucy. Jean-Yves Soucy, c'est un romancier, un nouvelliste, un directeur littéraire, un éditeur, l'auteur du roman Un dieu chasseur, qui était paru en 1976. Donc, il était nouvellement retraité. Et ce livre, c'est une histoire d'amour entre cet homme et une rivière. Donc, lui et sa femme, ils sont partis. Ils ont passé quelques étés depuis 2010 dans un camping de Baie-Trinité sur la Haute-Côte-Nord. Ça se trouve entre Baie-Comeau et Port-Cartier, c'est quand même assez loin. Et il, lui, se lançait dans la pêche au saumon. La pêche au saumon, c'est pas facile, c'est pas pour... c'est long, c'est méditatif, on est debout dans la rivière, on lance à longue ligne, c'est un sport, c'est une passion pour plusieurs personnes. Et ce qui est intéressant, ce qui amène une note un peu douce-amère à ce livre, c'est que Jean-Yves Soucy est décédé peu après sa parution. Donc, cette réalisation de son rêve, c'est sa dernière œuvre. Donc, ça amène une note intéressante.
Et poignante.
Oui, absolument. Puis on apprend aussi, c'est poétique, mais on apprend aussi plein de choses sur l'environnement. L'exploitation des rivières, les lois gouvernementales, les ZEC, c'est les zones d'exploitation contrôlées qu'on retrouve beaucoup justement dans les régions pour la pêche, justement. Donc, il en parle beaucoup. J'ai ici un petit extrait que je trouvais
avec votre jolie évocateur. Et douce voix, Hélène Gauthier.
Je viens souvent à la passe migratoire pour rêvasser, appuyer sur le garde-fou. Le corps au repos, l'esprit s'active. Demeurer immobile des heures durant à observer le paysage sans vraiment le voir, attentif plutôt au mouvement de ma pensée, en silence dans le silence mélodieux du monde. Ce sont des cris qui m'ont enseigné en 1963 à aimer le silence, à l'aimer au point d'en avoir besoin d'une ration quotidienne. Quelques heures face à la mer ou à un paysage ou en ville au feuillage d'un arbre, à méditer, rêver et inventer. Cela fait partie intégrante du processus de création, la gestation. On jongle avec une histoire, explore des possibilités, imagine des personnages, construit des décors, visionne des scènes, se récite des phrases, relie des idées et des faits, développe des thèmes. Par bonheur, je partage la vie d'une femme qui comprend ce besoin de retrait momentané du monde, l'éprouvant elle-même. Donc, c'était un extrait de « Les pieds dans la mousse de caribou, la tête dans le cosmos » de Jean-Yves Soucy.
Feu Jean-Yves Soucy, malheureusement. Oui. J'apprécie aussi que vous nous parliez de livres québécois parce que je trouve qu'il y a tellement de bons auteurs au Québec. Et je le dis sans... C'est pas de la caresse, de la tirer, on va les flatter dans le sens du poil. C'est vrai.
Oui, absolument.
C'est
très chanceux.
C'est hallucinant le nombre de bons auteurs qui écrivent de façon merveilleuse au mètre carré ici. Je n'en reviens jamais. Voilà, je vous laisse continuer.
Oui, parce qu'on on a encore le temps pour
On a une petite minute.
OK, rapidement, je voulais juste vous mentionner qu'on a ce roman, parce qu'on en a beaucoup parlé, d'Arlène de Noémie D. Leclerc. Je ne sais pas, je trouve que récemment, je vois ça partout. Donc, Noémie D. Leclerc est une très jeune femme, elle a 21 ans. Elle est en relation avec Hubert Lenoir, le chanteur.
Oui.
Donc, d'Arlène, c'est le roman qui accompagne l'album de Hubert Lenoir. Donc, il a écrit son album et elle a écrit son roman ensemble. C'était voulu. Ils voulaient créer ensemble ces deux si jeunes qui sont déjà si créatifs et si on peut juste
si
attendre
aussi,
exactement ce qu'ils vont créer de plus. Donc, c'est un roman, même si là, on en parle beaucoup dans tous les journaux, qui tomberait plutôt dans la catégorie young adult, qui est très populaire aux États-Unis. On n'a pas un équivalent français, c'est jeune adulte.
Ouais.
Donc, pas les ados, plus 18-21. Donc, qui représente vraiment la vie de Noémie D. Leclerc jusqu'à ce moment. Donc, Darlene, c'est une très jeune fille qui vit dans la ville de Québec. Qui vit sa vie. Sa mère est coiffeuse, elle passe du temps dans le salon de coiffure de sa mère, elle traîne au restaurant normandin, elle se demande ce qu'elle va faire de sa vie. C'est très semblable à sa vie. C'est presque autobiographique. J'ai vu une entrevue où elle disait que sa mère amène, travaille dans un salon de coiffure, donc la mère de Noémie Desleclerc amène le roman pour que Noémie le dédicace. Puis elle est un petit peu gênée parce que la façon dont elle parle de cette vie-là, c'est pas toujours positif, mais sa mère est fière que ça lui fait plaisir de toute façon. Donc, Darlène de Noémie Desleclerc est enfin disponible au SQLA.
Et qui nous permet de mieux comprendre l'œuvre musicale de Hubert Lenoir.
Hubert Lenoir, oui, mais oui.
Effectivement.
Je ne sais pas si vous étiez là au tout début de l'émission, mais notre ami Emmanuel Robitaille nous a offert une chronique sur la grossesse, sur éventuellement la grève d'ovaire. Eh bien, il y a aujourd'hui un article, si vous avez l'occasion d'aller voir cela, ça s'appelle « Le cancer des ovaires », l'article, et ce sont des chercheurs qui expliquent la résistance à la chimio. Il faut savoir que le cancer des ovaires est l'un des plus meurtriers chez les femmes. Des 2 800 femmes diagnostiquées en 2017, 1 800 en mourront, c'est vous dire. Alors, on essaie par cet article-là de comprendre pourquoi.
Et on a parlé de périnatalité, de grossesse et d'accouchement en début d'émission. Et il restait un petit fait divertissant que je ne vous avais pas dit, que je vous dis. Il y a une femme qui a donné naissance à un enfant via un mode in vitro d'un embryon. Jusque-là, ça va. Qui était congelé depuis 24 ans. Et habituellement, les embryons peuvent être congelés jusqu'à 10 ans. C'est en 2017 qu'on a défié toutes les probabilités. On s'est rendu à 24 ans.
Wow!
C'est fou, hein?
Merci beaucoup, Emmanuel Robitaille. Merci, Hélène Gauthier du SQLA. Merci aussi à tous nos invités. C'était Clotilde Say qui vous souhaite une belle fin de journée.